Caroline Tourbe, c'est l'heure comme tous les vendredis de votre chronique détox avec une question. Faut-il se passer totalement de viande?
Oui, le faut-il. Alors, il existe déjà des initiatives qui visent à diminuer notre consommation. On peut citer par exemple le lundi vert qui consiste à se passer de viande le premier jour de la semaine. Et vous en parliez dans l'émission.
Lundi dernier, évidemment.
Lundi dernier, voilà. Et il y a quelques jours aussi, c'est un collectif de chercheurs qui a publié une tribune dans le journal Le Monde pour appeler les maires à réduire la consommation de viande dans les cantines publiques. Pourtant, vous l'aurez remarqué, Mathieu, le débat reste toujours vif lorsque vous abordez le sujet autour d'une table viande, pas viande. La discussion peut rapidement s'enflammer en famille, entre amis. Pourquoi? Notamment parce que il y a des chiffres contradictoires qui continuent de circuler autour des effets de la viande sur le climat ou sur l'équilibre nutritionnel mondial. Certains minimisent, d'autres dramatisent le poids de l'élevage. Voilà pourquoi je vous propose de nous faire une petite détox sur le sujet.
Alors, premier point à propos du climat, Caroline.
Oui, je voulais revenir sur une fausse information que l'on entend encore très souvent.
Une question, quelle est d'après vous la première cause de réchauffement climatique dans le monde? Vous allez sans doute spontanément répondre ceci, le trafic, les transports. Et pourtant, la réponse la voici, c'est l'élevage intensif de bétail. Ce sont les Nations Unies qui le disent.
Alors comme ça, ce serait l'élevage qui contribuerait plus au réchauffement de la planète que les transports. Non, c'est faux. Alors il faut savoir que ça arrive quand on compare des chiffres incomparables. L'explication, c'est que selon l'Organisation Mondiale de l'Alimentation, la FAO, plus de 14,5% des émissions mondiales des gaz à effet de serre proviennent de l'élevage. Mais il ne faut pas le comparer aux 14% d'émissions liées aux transports indiquées, eux, dans le rapport du GIEC. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, la FAO analyse l'ensemble du cycle. Elle prend en compte le changement d'usage des sols, l'alimentation, les divers transports nécessaires. Tandis que de l'autre côté, le GIEC ne comptabilise que les émissions directes par secteur. Pour le GIEC, la part de l'agriculture se situe autour de 12%. Donc au final, c'est un peu moins que les transports. Et en France, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, il est possible de comparer les quantités directes de gaz grâce à l'inventaire réalisé par le CITEPA. C'est un centre d'études spécialisé. Et ça donne presque 30% pour les transports contre 19% pour l'agriculture en France, avec environ la moitié rien que pour l'élevage. Tout de même, sachant que ces mesures ne concernent pas les importations, uniquement les quantités de gaz émises sur le territoire français.
Alors, il se passe quoi, Caroline, si toute la population mondiale devient végane?
Alors là, adieu, veaux, vaches, cochons. Et c'est vrai, ça, qu'est-ce qui se passe si tous nos petits amis qu'on entend ici, là, disparaissent de nos assiettes? Eh bien, selon une récente simulation conduite à l'université Johns Hopkins, eh bien, le résultat serait net et sans bavure. Si les humains poussent le curseur jusqu'à se passer totalement des protéines animales, eh bien, on obtient une baisse record de moins 70% des émissions de carbone liées à l'alimentation. Quant à la consommation d'eau, elle serait diminuée d'environ 20%.
Donc c'est énorme, et pourtant cette étude ne conclut pas qu'il faut abandonner la viande et les protéines animales.
Et non, pas plus que le GIEC d'ailleurs. Le groupe d'experts dit très clairement que la viande, et en particulier la viande de ruminants, bœuf et agneau, est l'aliment avec le plus d'effets sur l'environnement, mais il ne dit pas qu'il faut totalement abandonner la viande et les protéines animales. Ça dépend de l'état nutritionnel des populations.
Donc il n'y a pas un seul régime idéal.
Et non, l'équipe de l'université Johns Hopkins, dont je vous parlais tout à l'heure, a essayé de le trouver en comparant dans 139 pays différents l'empreinte environnementale de 9 régimes, qui allaient du totalement végétalien à celui qui inclut de la viande 6 jours sur 7. Et le résultat, il est nuancé. Il n'y a pas vraiment de réponse universelle lorsqu'il s'agit de nourrir la planète et de sauver le climat. Mais on pourrait résumer ainsi leur modélisation. Dans certains pays ou pour certaines personnes vulnérables, il faut vraiment augmenter l'apport de viande ou de protéines animale. En revanche, dans les pays développés comme la France, il faut bien le diminuer, diminuer cette consommation. Et étonnamment, ce n'est pas du tout le régime végétarien qui l'emporte au final.
Alors, surtout dans pratiquement tous les pays étudiés, deux régimes ont particulièrement retenu l'attention des chercheurs.
Exactement. Le premier, c'est un régime qu'on peut qualifier de aux deux tiers végétalien, défini par deux repas végétaliens, donc zéro protéine animale, et un repas omnivore, donc avec un peu de viande. Ce régime-là, il fait mieux que le 100% végétarien. Pourquoi? Parce que les végétariens ont tendance à compenser l'absence de viande par des produits laitiers, ce qui alourdit considérablement leur empreinte sur le climat. Et l'autre régime, particulièrement intéressant selon les chercheurs, inclut lui aussi des produits animaux, mais attention, pas n'importe lesquels, uniquement des petits poissons, genre sardines, harengs, des mollusques et des insectes. Ces aliments présentent un double avantage, ils sont situés à la base de la chaîne alimentaire et donc leur empreinte environnementale est relativement faible, mais ils ont aussi des qualités nutritives indéniables.
Ben
bref,
oui. Miam miam. Ben, bon appétit, merci beaucoup Caroline Tourbe. Cette chronique détox est à réécouter sur franceinter.fr.